My name is Isaac Asimov.
Bonjour. Je m'appelle Isaac Asimov. Je suis né en 1920. Et au moment où vous écouterez ce message, je serai mort depuis longtemps. Mais c'est bien moi qui vous parle. Mon nom vous rappelle-t-il quelque chose? On me présente souvent comme le père des robots ou l'un des trois grands de la science-fiction. La science-fiction, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le domaine, signifie bande dessinée et films d'horreur. Et c'est dommage. Si vous vous penchez sur l'histoire du genre, vous verrez que c'est une branche récente de la littérature. Elle n'a pas plus de deux siècles. Mais elle prend en charge ce dont se sont occupés pendant des millénaires les mythes et légendes anciens. Le besoin de récits collectifs, le désir d'émerveillement et l'envie de percer les mystères de la marche du monde. Vous, les humains du 21e siècle, les humains de demain, avez été la principale préoccupation de ma vie. Tous les jours, j'ai écrit pour imaginer ce qui pourrait vous arriver. Et justement, si j'ai tenu à braver le temps pour vous transmettre ce message, c'est parce que j'ai la conviction que la science-fiction peut aider l'humanité. Elle recèle des pouvoirs qui sont plus que jamais nécessaires à la survie de l'espèce. J'ai déjà essayé de partager cette conviction avec les hommes de mon temps, mais malgré les nombreux micros et caméras qu'ils ont tendus vers moi, étaient-ils prêts à l'entendre? Vous seuls, gens du futur, pourrez en juger. L'histoire du futur. C'est ainsi que je désigne l'ensemble des livres qui composent mon œuvre. Ces récits décrivent parfois l'évolution des sociétés sur des milliers d'années, comme dans la trilogie Fondation. Sans doute mon ouvrage qui aura le plus marqué les esprits et que j'ai écrit quand j'avais 20 ans. Elle fut d'ailleurs d'une influence certaine sur une saga qui a elle-même connu, une trentaine d'années plus tard, un franc succès. Fondation est une épopée qui se déroule dans une époque où l'humanité s'est déployée sur de nouvelles planètes. Elle dépeint le déclin de l'Empire galactique. Et pour l'écrire, je me suis moi-même inspiré de l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Car voyez-vous, je pense que la plus passionnante histoire qui soit est celle de notre monde, celle des livres d'histoire. Vous devez sans doute trouver l'idée surprenante venant d'un auteur de science-fiction, mais le scientifique que je suis pense que la réalité est sans limite, alors que notre imagination, elle, prend sa source dans ce qui s'est réellement passé. Pour mieux me faire comprendre, permettez-moi de revenir quelques instants sur ma propre vie et de vous raconter comment j'ai rencontré ce qu'on appelle la grande histoire. Je nais en Russie en 1920. Mes parents émigrent aux États-Unis, où ils arrivent 3 ans plus tard. S'ils étaient restés en Russie, qui sait ce qui nous serait arrivé avec la période sombre des purges staliniennes, la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de notre région par les nazis. En Russie, mon père appartient à une famille de commerçants relativement prospère. Mais arrivé aux États-Unis, il se retrouve sans le sou. Au bout de 3 ans, il a assez d'économies pour l'achat d'un petit bazar familial, confiserie, cigarettes et journaux. Non seulement cette boutique assure notre avenir, mais elle est aussi le théâtre de mes premiers émois de lecteur de science-fiction. Mais j'y viendrai plus tard. Quand je me rends compte que mes parents ne savent pas lire l'anglais, je me lance seul dans l'apprentissage de la lecture, déchiffrant tous les panneaux que je croise dans la rue, puis tous les livres qui me tombent sous la main à la bibliothèque du quartier. Je me passionne pour tout. Je deviens un lecteur compulsif. Et grâce à une mémoire dont je n'ai jamais su expliquer l'incroyable performance, je commence à me constituer une culture sans bornes. Je lis de si nombreuses fois l'Iliade que je peux encore en citer des vers à tout moment. C'est donc enfant que je me passionne pour l'histoire. Je découvre l'Empire byzantin et la flamboyante civilisation grecque. Je lis et relis une histoire mondiale signée d'un auteur français du 19e siècle, Victor Duruy. Depuis, même si mes études m'ont par la suite conduit vers une carrière scientifique, je n'ai jamais cessé d'approfondir mon intérêt pour l'histoire. À force d'études, je finis par comprendre que si vous observez bien attentivement l'histoire de l'humanité, vous pouvez mettre en lien tout changement durable avec une avancée technologique. Pensez par exemple aux changements qui ont été apportés dans la vie quotidienne des gens par le développement de l'agriculture, par l'invention de l'imprimerie, de la poudre à canon, ou de la boussole de marin. En fait, derrière toute transformation majeure dans l'histoire humaine, on peut découvrir que se cache une avancée scientifique ou technologique. Dans le passé, vous pouviez vivre une vie à peu près semblable à celle de votre père, qui était la même que celle de votre grand-père. Je dirais que depuis la révolution industrielle, nous ne pouvons plus nous fier à cela, car les choses changent bien plus rapidement. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment de l'accélération des changements, que naît la science-fiction. Notre réaction aux avancées de la science a toujours oscillé entre fascination et rejet, et l'histoire de la science-fiction en témoigne. Prenez par exemple Frankenstein, que certains considèrent comme le premier livre de science-fiction moderne publié en 1818. Quelques années plus tôt, un anatomiste italien, Luigi Galvani, réalise que les muscles des pattes des grenouilles disséquées se contractent comme s'ils étaient vivants lorsqu'un courant électrique les traverse. Et si l'électricité était le secret de la vie? Il n'en faut pas plus pour que l'on imagine pouvoir créer artificiellement la vie grâce à des principes strictement scientifiques. Cependant, dans Frankenstein, le monstre, avec une fureur que le livre ne justifie pas tout à fait, se venge en tuant tous ceux que le savant aime. Et finalement, le savant lui-même. Ce récit exprime l'une des peurs les plus persistantes qui ait jamais hanté l'humanité, celle de la science dangereuse. J'appelle cela le complexe de Frankenstein. Ce thème qui dépeint une humanité arrogante et avide de revêtir par une science mal inspirée le manteau du divin est au cœur de bien des histoires de science-fiction. Il y a des choses que l'homme ne doit pas savoir, pense-t-on alors. À mesure que s'écoule le XIXe siècle, cette méfiance théologique vis-à-vis de la science s'estompe. La révolution industrielle étend ses conquêtes. Et une confiance irréfléchie dans le progrès nous fait croire que la science peut faire advenir un monde utopique. Mais ce rêve est hélas dissipé par la Première Guerre mondiale. Cet affreux massacre nous montre clairement que la science peut devenir l'ennemi de l'humanité. C'est grâce à la science que l'on peut fabriquer de nouveaux explosifs. Grâce à elle que l'on construit des aéroplanes pour les transporter. C'est encore la science qui permet, comble de l'horreur, d'arroser les tranchées de gaz toxiques. Vous comprenez alors comment le méchant savant, ou au mieux le savant fou, a pu devenir un personnage typique de la science-fiction d'après la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 30 que je deviens moi-même lecteur de science-fiction. Quand je commence à travailler à la boutique de mon père, les pulp fictions s'ajoutent à mes lectures sérieuses. Les premiers temps, ces petites revues m'enchantent plus que toute autre chose. Je les déniche à la boutique et elles me réconcilient avec le travail imposé et les heures d'ouverture interminables. Je les lis avec un soin infini, puis je les remets en place comme neufs sur les présentoirs. Mais rapidement, je me lasse de ces histoires de savants fous sans cesse répétées. Puisque je me destine à une carrière de scientifique, je finis par me rebeller contre ces visions caricaturales. Je ne le sais pas encore, mais grâce à cette formation scientifique, je vais faire partie de ceux qui ont profondément transformé le genre. Ce que l'on appellera l'âge d'or de la science-fiction. Mais il faut d'abord que je rencontre mon éditeur, John Campbell. Avec l'âge d'or, la science-fiction acquiert tout à coup une certaine crédibilité. L'énergie atomique, les fusées, l'électronique, les ordinateurs. Toutes ces choses qui forment la base même de la science-fiction deviennent réalité. Dans une période où le rythme des avancées s'intensifie encore davantage, les lecteurs se passionnent pour le genre et dévorent les œuvres d'Arthur C. Clarke, de Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Frederick Pohl, Robert A. Heinlein, Alfred Bester, A. E. Van Vogt, Jack Vance, Frank Herbert et bien d'autres. Je deviens moi-même auteur à plein temps. Et à partir de ce moment, j'écris en moyenne 13 livres par an. Je suis ce qu'on appelle un écrivain prolifique. J'écris des histoires qui se déroulent dans notre futur proche et souvent lointain. Je les imagine à partir de ce que je sais de la science. Je raconte souvent une humanité qui a quitté la Terre pour d'autres planètes. Il est question de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles sciences, de robots, d'intelligence artificielle. Je décris comment ces technologies modifient les sociétés et les conflits qui accompagnent leur émergence. J'écris du matin au soir et ne m'arrête que pour rejoindre mon lit. J'évite de sortir de chez moi car je suis claustrophile. C'est-à-dire que j'ai une préférence pour les endroits clos. Or, comme beaucoup d'écrivains, j'utilise mes névroses pour mon travail. Ainsi, ma machine à écrire est disposée de telle manière qu'en relevant les yeux, je ne vois devant moi qu'un mur blanc et aveugle. En somme, je n'aime que le confort de mon petit bureau. Je ne manque de rien car j'ai à portée de main ma bibliothèque. Ainsi que bien sûr tous les livres que j'ai déjà lus et qui sont impeccablement consignés dans ma mémoire. J'avoue sans honte que je crains le monde extérieur. J'ai peur des avions et des voyages. Alors à quoi bon vouloir m'y risquer, puisqu'avec une simple machine à écrire, je peux, sans quitter mon bureau, voyager dans le futur et jusqu'aux confins de l'univers. À quel point peut-on prévoir l'avenir ? Dans Fondation, mon héros, Harry Seldon, est un scientifique, citoyen de l'Empire Galactique, qui a mis au point une science permettant d'anticiper les principaux changements de l'histoire de l'humanité. La psychohistoire mêle psychologie, sociologie et statistique. Harry Seldon cherche à déterminer la nature des changements qui vont affecter la société et à quel moment précis de l'histoire du monde une intervention humaine peut, le plus efficacement possible, influencer le cours des choses. Pour cela, il enregistre des messages holographiques destinés à être découverts par les générations futures à des moments clés de l'histoire humaine. Pour ma part, c'est surtout parce que j'ai intégré des robots à mes histoires que l'on a voulu voir en moi un prophète. Des robots et les problèmes qui les accompagnent. En mai 1939, j'ai 19 ans et j'écris une nouvelle intitulée « Robbie ». L'action prend place dans un futur proche. C'est l'histoire d'une petite fille qui se prend d'affection pour son robot domestique sous le regard inquiet de ses parents. C'est la première d'une longue série d'histoires de robots. Des machines qui exigent des cerveaux artificiels d'une incroyable complexité, tout en tenant dans un espace aussi réduit qu'un crâne. Et c'est en